HDR. Le mix des cultures. 99.1 FM.
heures de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Les gens comme moi, je pense que c'est des gens qui sont assez sincères, assez investis, assez trop sensibles et puis qui arrivent pas vraiment à passer outre quand ils voient qu'il y a une injustice. Ça paraît très Miss France hein, comme discours, mais au final ça apporte pas mal de difficultés dans le monde pro, dans le journalisme en particulier, quand on est comme ça, parce qu'on... On va toujours chercher ce qui va pas et on va toujours le pointer du doigt. Donc c'est pas des profils considérés comme forcément très sympathiques, alors que justement on est sympa. Mais oui, les gens comme moi, je pense que c'est des gens qui ont du mal à fitter dans le moule globalement pour ces raisons-là, quoi.
Bonjour et bienvenue dans Du poil sous les bras. Qui que vous soyez et où que vous soyez, le sujet du jour devrait vous intéresser, puisqu'a priori chacune d'entre nous passe parfois les portes d'un cabinet médical. Le moins souvent possible, je vous le souhaite, mais rares, voire inexistantes, sont les personnes à qui cela n'arrive jamais. Et laissez-moi vous citer tout de suite un extrait du roman « Le bal des folles » de Victoria Mas. Dans une salle d'examen, les deux individus qui s'y trouvent ne sont plus égaux. L'un évalue le sort de l'autre, l'autre croit la parole du premier. L'un détermine sa carrière, l'autre détermine sa vie. Le clivage est d'autant plus prononcé lorsqu'une femme passe les portes du bureau médical. Celle-ci offre à l'examen un corps à la fois désiré et incompris par celui qui la manipule. Un médecin pense toujours savoir mieux que son patient et un homme pense toujours savoir mieux qu'une femme. C'est l'intuition de ce regard-là qui rend aujourd'hui anxieuses les jeunes femmes attendant leur évaluation. Alors le bal des folles se passe au 19e siècle, et dans cette émission, on va se placer au 21e siècle, aujourd'hui. Mais autant vous dire que la relation médecin-patient est presque toujours aussi inégalitaire, par la hiérarchie, et aussi par le genre. Même si, bien sûr, il y a aujourd'hui des médecins femmes, des médecines donc. N'ayons pas peur d'utiliser des mots qui existent. Mais même s'il y a des médecines donc, ça ne résout rien. On y reviendra. On y reviendra parce que le sujet du jour, c'est la façon dont la médecine ne fait pas que soigner les femmes, mais les maltraite aussi parfois.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Bonjour, je m'appelle Maud Le Reste, je suis journaliste indépendante et je suis la co-autrice avec Eva Tapiero du livre Les patientes d'Hippocrate, quand la médecine maltraite les femmes.
Maud Le Reste est mon invitée du jour, du mois même, pour Les patientes d'Hippocrate aux éditions Philippe Ray. Un petit bouquin bien foutu qui commence par ce passage de Victoria Mas que je viens de vous lire et qui enchaîne ensuite les témoignages et des exemples aussi très symptomatiques de la façon dont la médecine maltraite les femmes. Alors pas de panique, j'entends déjà les « not all men, not all médecins, non moi le mien il est vraiment super, fantastique, génial ». Bon, alors oui, il y a des médecins et des médecines compétentes, attentionnées et qui exercent leur profession de la meilleure façon qui soit. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que maintenant on peut parler de la maltraitance? Puisqu'on appelle un chat, alors dans du poil sous les bras, nous allons appeler maltraitance et violence la violence.
Déjà, nous, on est parti du principe qu'il ne faut pas euphémiser la réalité. Il y a des formules toutes faites. Par exemple, quand on parle des féminicides, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ça invisibilise complètement le sujet, qui est l'homme qui a tué une femme. Nous, on est parti du principe qu'on n'allait pas tourner autour du pot. On allait dire maltraitance et on parle aussi de violence misogyne. Parce que c'est ce qui se passe, c'est de la maltraitance, et maltraitance c'est polysémique, c'est de la maltraitance au sens premier du terme, mais c'est aussi le fait de pas bien traiter quelqu'un, le traitement c'est médical, et donc on considère que les femmes sont moins bien traitées que les hommes aujourd'hui en France, et voire maltraitées en fait, et c'est ça qu'on voulait, et il n'y a pas de raison en fait de féminiser ça, parce que c'est ce qui a opéré pendant trop longtemps, et on espère à notre petit niveau déjà ouvrir une brèche là-dessus.
« Maud Lorest parle de termes polysémiques. Poly pour beaucoup, sème le sens à propos de maltraitance. Parce que la maltraitance peut prendre la forme de violences physiques, psychologiques, sexuelles, verbales. Ça peut être des abus dans la médication, de la négligence ou du mépris. Quand un médecin n'écoute pas ou ne croit pas une patiente, il est dans la maltraitance. Il inflige un mauvais traitement à une personne et ça a parfois des conséquences graves et durables pour les victimes. Normalement, vous verrez, à la fin de cette émission, vous devriez vous dire « Ah oui, tiens, bah moi aussi, en fait, j'ai déjà subi de la maltraitance médicale. » Prenez mon cas. De prime abord, pas de maltraitance. Mais si je creuse un peu, une gynécologue qui me fait faire 5 mammographies avant même mes 40 ans, alors qu'il n'y a aucun historique de cancer du sein dans ma famille, que je n'ai aucun ganglion, qu'on n'a palpé aucune bosse sur mes seins, est-ce que c'est pas de la maltraitance ? Autre exemple, mon ancienne médecine, qui, comme moyen de contraception, dans un document pour un confrère, indique « homosexuel ». Est-ce que ça, c'est pas de la maltraitance ? Et j'ai pourtant la chance d'être blanche, issue d'un milieu favorisé, d'avoir un accès à mes droits facilité, disons. Eh bien, malgré cela, j'ai pris conscience très tardivement d'avoir été parfois maltraitée par des médecins qui niaient ma parole, me jugeaient ou avaient des remarques déplacées. Alors je me suis demandé évidemment pourquoi, comment Maud Lorest et Eva Tapiero en étaient venues elles aussi à s'intéresser aux violences médicales misogynes.
Alors d'où c'est venu de notre vie quotidienne et de ce que nos amis, nos connaissances pouvaient nous raconter, femmes hein, j'entends, enfin je parle, petite précision, on parle de femmes cisgenres dans ce bouquin, parce que c'est les témoignages qu'on a reçus, tout simplement, et que la question de la transidentité, ça mériterait un bouquin entier, en fait, encore, comment les trans sont maltraitées par la médecine, ça, faut aussi en parler, mais voilà, je précise qu'on parle des femmes cisgenres ici. C'est venu de ça, des observations qu'on se faisait au quotidien, et comment la maltraitance, elle se voit au quotidien aussi. C'est par exemple un infarctus du myocarde qui est moins bien pris en charge quand on est une femme parce qu'on connaît moins bien les symptômes, parce que la recherche c'est pas vraiment occupée de ça chez une femme, parce qu'on considère que peut-être si elle arrive aux urgences c'est a priori une crise d'angoisse. C'est quoi la maltraitance? C'est dans un couple infertile, avant même de faire un spermogramme de l'homme, qui est une chose très peu invasive, on va faire passer une batterie de tests à la femme, quand bien même c'est même pas elle qui a un problème d'infertilité. C'est quoi encore? C'est l'autisme chez les femmes. Comment les femmes sont en errance diagnostique pendant des années, les femmes autistes, avant de comprendre ce qu'elles ont, quand elles ont la chance d'avoir un diagnostic, hein, parce qu'on considère que qu'elles sont plutôt, je mets des guillemets, folles, hein, bipolaires, schizophrènes. Tout ça, c'est des exemples qui... C'est pas une liste exhaustive, évidemment, parce qu'on aurait pu faire une encyclopédie à ce niveau-là, mais globalement, ça montre le caractère systémique de ces maltraitances-là, de ces violences-là, de cette inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, et du fait que ce soit complètement accepté aujourd'hui, voire intégré par les femmes.
Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Maud Lorest. On reviendra sur l'infarctus du myocarde, parce que est-ce que vous savez que les symptômes d'un infarctus chez une femme peuvent être différents de ceux des hommes? Si vous ne le savez pas, c'est parce qu'historiquement la médecine a étudié le corps masculin comme s'il était la norme, oubliant ainsi à peu près 50% de la population quand même. Et voilà comment, encore au XXIe siècle, les femmes se retrouvent moins bien prises en charge lors d'un arrêt cardiaque. Alors, disons-le, le masculin n'est pas le neutre, ni dans le langage, ni en médecine. Et les médecins eux-mêmes ne sont pas neutres, ils appartiennent à un système de domination, un système sexiste, et ils reproduisent en grande majorité ce qu'ils ont appris. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, Maud Lorest va dire le mot en paix.
La médecine française aujourd'hui, elle est patriarcale. Évidemment que des femmes peuvent être médecins aujourd'hui, mais de toute façon, elles sont aussi autrices de violences, les femmes médecins, enfin elles peuvent l'être. Pourquoi cette médecine est patriarcale? Il y a plusieurs critères. Déjà, il faut savoir que dans les études de médecine, on n'a pas vraiment de formation à l'empathie, aux violences sexistes et sexuelles, au consentement. On peut le voir, hein, par exemple, quand on aborde les viols gynécologiques, il y a tout de suite une espèce de levée de bouclier de la part des gynécos qui s'en offusquent. C'est aussi la position du médecin, qui est celle du sachant. du notable aussi, qui va pas vouloir du tout qu'on remette en cause sa parole, encore moins quand c'est une femme en face de lui. Hein. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les médecins font partie de la société, c'est des gens avant d'être des médecins, et la société, elle est patriarcale. Donc elle est construite sur des biais de genre, sur des stéréotypes de genre, et qui sont défavorables aux femmes, et qui les font passer, en général, pour des affabulatrices, pour des hystériques, ou pour des petites natures. Donc évidemment que ces biais-là, ils imprègnent aussi l'esprit des médecins et des soignants, qui en plus sont placés dans un moule hyper patriarcal pendant leurs études et pendant leur carrière, quoi.
Ce qui se passe dans les relations médecin-patient, c'est le continuum de ce qui se passe ailleurs. Mais dans un cadre médical, la maltraitance peut avoir des conséquences plus graves. Alors quand on dit que la maltraitance est systémique, qu'elle est le fruit d'un système bien en place, ça ne veut pas dire que l'individu médecin n'y est pour rien. Non. On a le droit d'analyser ses pratiques et d'évoluer à l'encontre du système. Aujourd'hui, toutes les femmes ont été confrontées à des violences misogynes de la part du corps médical, qu'elles en aient conscience ou pas. Et même de la part de femmes médecines, comme l'a dit à l'instant Maud Lorest, car elles s'adaptent à la norme de la violence masculine. Mais il y a encore pire. Si vous êtes une femme non blanche, grosse, ou étrangère, ou handicapée, ou avec un niveau intellectuel modeste par exemple, eh bien, tout ce qui va vous éloigner encore un peu plus du standard homme, blanc, bien portant de catégorie sociale élevée, eh bien, tout cela va devenir un facteur multipliant le risque de discrimination.
Les femmes sont moins bien traitées que les hommes, mais au sein des femmes, il y a des catégories qui sont encore plus maltraitées. Et c'est là qu'on peut aborder la notion raciste de syndrome méditerranéen. C'est très connu dans les hôpitaux français aujourd'hui, et cette notion, elle a commencé à être utilisée quand il y a eu des afflux de populations venues d'Afrique noire ou du Maghreb. On considérait, enfin, pas mal de médecins considéraient et considèrent toujours abusivement que ces populations-là sont plus expansives, plus hystériques et plus, on va dire, chouchottes que les blancs. Et les femmes racisées, elles ont une double peine. C'est-à-dire que déjà, c'est des femmes, donc on les considère moins. Et puis en plus, si elles sont noires ou arabes, alors là, c'est même pas la peine, quoi. On imagine qu'elles en font des caisses. Alors bon, je dis « on ». Évidemment, la société évolue, hein, et il y a plein de très bons médecins qui... Enfin voilà, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que ces femmes-là ont encore plus de mal que les femmes blanches à se faire entendre et à se faire respecter par le corps médical.
Le syndrome méditerranéen, franchement, c'est comme l'hystérie. Je pensais que ça avait disparu. Eh ben non. Pourtant, beaucoup de choses évoluent en médecine, mais certaines pratiques sexistes, certains archaïsmes semblent perdurer.
C'est ça, la médecine a du mal à s'en débarrasser. On peut le voir par exemple avec des faits divers tragiques, hein, la mort de Naomi Musanga, je crois que c'était en 2018, donc c'était une jeune femme, vraiment très jeune, 22 ans je crois, qui avait appelé le SAMU. Elle est décédée quelques heures plus tard, mais elle n'a pas été prise au sérieux parce qu'on imagine qu'elle avait un accent, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, les opératrices du SAMU lui ont ri au nez. Elle disait « je vais mourir » et les opératrices ont dit « oh là là, mais madame, on meurt tous un jour ». Bon, elle est morte quelques heures après, elle avait 22 ans. Et bon, plein de médecins vous diront que ça n'a rien à voir, que c'est les opérateurs du SAMU qui sont débordés, mais ça m'étonnerait qu'ils rient au nez de tous les patients qui les appellent comme ça, quoi. Cette année, Mediapart a révélé un scandale aussi d'une mère de famille d'origine guadeloupéenne, je crois, qui est morte dans les mêmes conditions que Naomi Musanga. Voilà, on peut pas fermer les yeux là-dessus, et ça semble évident que leurs voix, leurs accents ont orienté leur prise en charge pour le pire, étant donné qu'elles sont aujourd'hui décédées.
Alors, micro-précision concernant Naomi Musanga, elle est décédée le 29 décembre 2017 et non pas en 2018, mais retenez surtout qu'elle est morte probablement en partie à cause du sexisme et du racisme qui amène parfois certaines personnes à minimiser ou nier la parole de certaines femmes. Et la seconde femme à qui Maud Lorest fait allusion est, je pense, Yolande Gabriel, une Martiniquaise qui est décédée chez elle après avoir été maltraitée par un médecin du SAMU. Une instruction judiciaire est d'ailleurs en cours. Alors il ne s'agit pas de dire que ça ne pourrait pas arriver à un homme, bien sûr que si. Mais ce que je tente de mettre en exergue, c'est en quoi le corps des femmes et celui des hommes ne sont pas traités de la même façon. Le monde médical est passé largement à côté de certaines problématiques concernant les femmes.
Alors, nous, on a développé une notion, c'est un peu pompeux de dire ça, mais on trouvait que ça résumait bien la chose, on parle de masculin neutre. Dans la médecine, dans la recherche, dans la prise en charge, ce qui est considéré comme le neutre, c'est le masculin, et à contrario, ce qui est considéré comme le différent, le particulier, c'est le féminin. Pourquoi on dit ça ? On a constaté, déjà par notre expérience perso, que la plupart des nanas cis aujourd'hui, quand elles ont, on va dire, allez, 15 ans, elles commencent à aller chez le gynéco, on sait même pas pourquoi, certaines n'ont jamais eu de relations sexuelles, certaines n'ont aucun problème, enfin la plupart d'ailleurs n'ont aucun problème gynéco, mais elles y vont parce que c'est comme ça, parce que bon, il faut checker sous le capot, il faut voir si tout marche bien, et puis ensuite c'est une fois par an. Alors faut savoir que la première consultation gynécologique, normalement c'est pas avant 25 ans, mais ça personne le sait, et puis c'est surtout pas tous les ans, on s'en fout quoi. Enfin, mais les femmes, on leur inculque que leur corps a besoin d'être checké, médicalisé, un peu comme une bagnole qu'on envoie au contrôle technique. On n'imaginerait jamais qu'un homme aille, à partir de ses 14-15 ans, se faire tâter chez l'andrologue. Ça serait impensable, et puis si ça arrivait, mais ce serait un scandale, pas possible quoi. D'ailleurs, andrologue, je sais même pas si les gens savent ce que ça veut dire en fait. On est parti de ça, et puis on a réalisé que c'était le cas un peu partout en fait. La recherche préclinique, donc l'étape avant, avant de faire des expériences sur des organismes humains, donc la recherche préclinique, quand on fait ça sur des rats par exemple, on réalise que dans les échantillons, c'est une grande majorité de rats mâles par exemple. Et la posologie, elle est pensée pour les hommes. La prise en charge est pensée pour les hommes aussi, parce que quand on voit comment certaines femmes sont reçues à l'hôpital, c'est ça qui se passe. Voilà, c'est le masculin neutre, c'est penser que la femme a une spécificité, qu'elle doit être médicalisée à l'extrême, qu'elle va être dépossédée de son corps, si bien que nous, dès un très jeune âge, on apprend que ça va être normal de mettre les pieds dans l'étrier, de laisser son corps au sachant, de se laisser farfouiller de l'intérieur, que c'est normal, alors qu'un homme, ne ferait jamais ça, Et c'est ce qu'on a constaté, et il y a encore beaucoup de choses à déconstruire de ce côté-là.
J'ai cherché partout, dans les dunes du désert, aux formes fluides et légères, dans le fond des océans, aux reliefs proéminents, sur les joues bien rebondies des chérubins du parvis, et même chez le boulanger, sous chaque miche enfarinée. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? J'ai pourtant l'image. Bien ancré dans mes gènes, de la femme prototype qui radieuse se promène avec ses deux beaux archétypes, en gloire à sa féminine condition de gourgandine, et qui, ma foi, s'étonne un peu qu'on ne la regarde pas dans les yeux. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas? J'ai cherché partout. Dans les corbeilles à fruits, aux pommes lisses et brillantes, dans les volutes d'harmonie, aux formes parfois accablantes sur le papier glacé qui vous révèle des rondeurs tabous, même sur le marbre des statues parfaites en tout point de vue. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Est-ce papa qui préférera que je n'en ai pas? De leur propre volonté, peut-être s'en sont-ils allés, peut-être aussi tout est permis qu'ils reviendront au balcon. Souvent, en admirant la lune ou les blancs cumulonimbus, qu'est-ce que c'est que cette voix?
Elle est bien, c'est bien, non?
C'est pas mal, c'est bien, c'est beau.
Le kyste vient d'exploser. Pardon, ça me perturbe un peu. Je savais pas que je pouvais parler avec cette voix-là. J'ai soupiré souvent en admirant la lune ou les blancs cumulonimbus. J'ai même trouvé des volumes, je ne contrôle plus rien. Même la musicienne part en couille. J'ai même trouvé des volumes sur le plus piquant des cactus. Suis-je donc le seul être sur terre que la nature fit rectiligne? Ah oui, tiens, parlons-en de la terre. Ce gros saron qui me déprime, où sont mes nichons?